Alors, le titre donc de ma petite présentation d'aujourd'hui, ça s'appelle « Renverser les faux dieux de cette littérature bâtarde ». Et c'est une phrase de Balzac dans une lettre à Madame Onska en juin 1946. Il évoque en fait ses projets d'écriture, et notamment « La cousine bête et le vieux musicien », qui est l'ancien titre du cousin Ponce. Et comme il envisage leur publication en feuilleton dans les journaux, il affirme « Le moment exige que je fasse deux ou trois œuvres capitales qui renversent les faux dieux de cette littérature bâtarde et qui prouveront que je suis plus jeune, plus frais et plus grand que jamais. » Donc, après une période de moindre créativité dont on a parlé tout à l'heure, le message est clair, Balzac is back. Et ce retour va passer par le feuilleton, avec lequel il entretient pourtant depuis plusieurs décennies des rapports contrastés. Alors ça, c'était la citation que je viens de vous donner. Et pour essayer de traiter ce sujet, je ne suis pas passée par les trois parties. J'ai pas pensé à cet aspect-là des choses, donc je resterai sur deux parties inégales, en plus, enfin, vraiment sous ce qu'il ne faut pas faire dans une leçon d'agrégation. Donc d'abord, j'essaierai de voir de manière un peu générale en quoi le feuilleton peut être présenté par Balzac comme un objet qui présente un risque d'abâtardissement littéraire, ou comment on peut au contraire y voir un défi lancé au roman. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de voir comment se décline au sein justement de ce roman, Le Cousin Ponce, un certain nombre d'infléchissements poétiques que je ne vous détaille pas maintenant, on les verra un par un tout à l'heure. Alors d'abord, première chose, le feuilleton. Le feuilleton pour Balzac est une aventure pour laquelle j'ai essayé de choisir trois repères. Tout d'abord, en 1836, La vieille fille, tout simplement parce que c'est donc le premier ouvrage que Balzac fait paraître en feuilleton. Alors, avant de rentrer plus dans le détail, c'est vrai qu'on oublie parfois, quand on tient en main un volume de Balzac, que la plupart de ses romans sont d'abord parus dans des revues, dans des journaux, par livraison successive, de quelques pages à chaque numéro. Avec ses récits compacts dans la comédie humaine, des récits dépourvus de chapitres, puisque Balzac les a supprimés, on n'a plus du tout cette impression-là. Le fait qu'on ait affaire à un agencement global, des regroupements, des renvois d'un roman à l'autre, donne aussi l'impression d'un ensemble très structuré qui est très loin de la fragmentation qu'on peut voir s'opérer dans le processus du feuilleton. Par ailleurs, le feuilleton mêle donc l'œuvre à d'autres textes littéraires ou journalistiques dans le journal. Il livre aussi le texte romanesque directement aux commentaires des lecteurs, et parfois même avant que l'auteur ait achevé de l'écrire. C'est le cas donc pour La vieille fille, puisque ce récit va être livré donc en 12 épisodes échelonnés en octobre et novembre 1836 dans la presse. Et jour après jour, donc les lecteurs découvrent ce récit qui continue à s'écrire, à s'amplifier au fil des numéros, même un moment où Balzac manque de copies au grand désespoir d'Émile de Girardin, le directeur du journal. Les réactions des abonnés sont vives, elles sont attestées par de nombreux courriers qui réclament l'arrêt de ce récit, que certains jugent immoral. Et la critique attaque aussi au jour le jour ce que le milieu journalistique considère un petit peu comme un coup éditorial, si bien que Girardin va finir par mettre un terme à sa collaboration avec Balzac, tout en se réjouissant par ailleurs que le chiffre des ventes ait augmenté suite à cette opération, ce qui montre quand même qu'il y avait une certaine attractivité et un retentissement positif de cette œuvre. Alors, à la suite de Balzac, donc d'autres écrivains, enfin à la suite et même avant Balzac, puisqu'on a aussi Alexandre Dumas donc, qui réalise le premier feuilleton, mais on va voir donc toute une série d'écrivains qui vont tenter ce genre-là, et notamment donc Frédéric Soulier, George Sand et surtout Eugène Sue qui vont devenir les champions du genre et obtiennent des succès souvent faramineux. Alors, si on essaie de résumer rapidement les traits qui caractérisent ce mode de publication qui devient petit à petit un genre romanesque avec des pratiques propres, on va voir tout d'abord tout ce qui concerne l'importance de l'action, des rebondissements, l'idée d'un suspense qui va être capable d'accrocher le lecteur en fin de chapitre, la multiplication des personnages et souvent leur manichéisme, l'utilisation aussi de toute la palette des émotions. Enfin, la possibilité de s'adresser directement au lecteur, de toucher une large audience, en fait une tribune de choix, et ça donne souvent donc à ces récits une coloration politique. La forme du journal évolue aussi, hein, puisque petit à petit, c'est donc le bas des pages du journal qui va être le rez-de-chaussée du journal, donc qui va être réservé au roman, qu'on pourra donc découper, relier pour former un volume. Et cette dimension-là, qui va vers une pratique éditoriale, me semble intéressante. Alors donc, c'est sous cette forme que va paraître Le Cousin Ponce en 1847, en 30 feuilletons, publié dans le Constitutionnel. Et cette publication fait suite à la publication de La Cousine Bette, qui avait eu lieu d'octobre à décembre 1946. Alors Balzac souhaitait au départ enchaîner les deux épisodes des Parents pauvres, hein, mais finalement ça n'a pas été possible, tout simplement parce que la deuxième partie n'était pas terminée au moment où la première s'est arrêtée. Cette visibilité qui est donnée à ces œuvres de Balzac ne relève pas complètement de l'évidence. Parce que même si Balzac est omniprésent dans les journaux durant toute sa carrière littéraire, il peine à être reconnu dans l'exercice du feuilleton. Et sa rivalité avec Eugène Sue notamment montre un véritable besoin de reconnaissance sur ce plan. Tout au long de cette période, Balzac, qui par ailleurs construit sa légitimité de romancier en même temps qu'il bâtit son grand œuvre, La Comédie humaine, Balzac continue tout de même à essuyer du côté des journaux des demi-succès, parfois voire des échecs, et paye d'une certaine manière son refus d'adopter pleinement les canons du genre, tels qu'ils se dégagent peu à peu des pratiques. Alors, il s'exprime sur ce sujet dans différentes préfaces où on voit alterner, parfois se mêler, un certain enthousiasme et une méfiance par rapport à cette pratique. Donc, par exemple, dans la préface de La femme supérieure de la maison Nucingen et de la Torpille, qui sont publiées ensemble en 1838, il explique la pression que subissent les romanciers vis-à-vis des journaux qui veulent toujours quelque chose qui s'adapte parfaitement au format matériel du journal, mais aussi à ses colorations politiques, son souci de ne pas heurter le public. Et un petit extrait de ce passage, ce serait « Donnez-nous quelque chose entre le sermon et la littérature, qui fasse des colonnes et pas de scandale, qui soit dramatique sans péril, comique sans drôlerie. » Donc autant dire que l'équation est assez compliquée à tenir. Ce sont des exigences donc contradictoires et quelque chose qui peut paraître assez déroutant. Dans la préface de Béatrix, il va stigmatiser aussi les trahisons du feuilleton et il y oppose au contraire une vie beaucoup plus durable des œuvres en volume. Mais dans le même paragraphe, il est capable aussi d'expliquer que malgré tout, il sait faire, et par exemple, qu'il a tout récemment publié un grand tome de province à Paris, je cite, une scène pleine d'action, sans description, sans ce qu'on appelle des longueurs. Donc, on a quelque chose qui est toujours très ambivalent. En 1844, hein, deuxième repère, hein, Les Paysans. Donc, là, on a une œuvre qui va être aussi publiée donc en feuilleton, mais qui va être assez rapidement interrompue. Interruption qui sera vécue par Balzac comme un affront. Le coup est d'autant plus rude que juste après, Alexandre Dumas prend la suite avec La Reine Margot et va connaître un succès immédiat. Et le manuscrit des paysans, du coup, va rester achevé. Alors, qu'est-ce qui se passe d'essentiel dans cet épisode? Visiblement, le rythme très lent et les longues digressions politiques et sociales ont lassé les lecteurs. Alexandre Dujarrier, qui est le gérant de la presse, qui est à ce moment-là cerné par les menaces de désabonnement, lui suggère de sacrifier des descriptions. Je cite la phrase: Les paysans vont très bien, ils iraient mieux encore si vous vouliez faire le sacrifice de quelques descriptions. On les trouve généralement trop longues pour le feuilleton. Ne pourriez-vous pas les rogner un peu et les rétablir pour l'édition en librairie? Alors, cette suggestion que Balzac refuse pousse à son terme une logique de séparation de deux littératures, de deux lectorats et finalement de deux styles. D'un côté, une littérature à consommer, attractive, centrée sur l'action, sur les péripéties, fondée sur le brio, sur les émotions fortes, qui s'écrit devant le collectif et qui l'amuse de clin d'œil à l'actualité. Et puis de l'autre, une littérature qui se donne le temps de poser un cadre, de développer une pensée dans un volume qui circonscrit un espace de lecture qui est marqué par l'individualité et par la continuité. Et il ne semble possible pour Balzac de passer de l'une à l'autre qu'au prix finalement d'une mutilation, hein, couper les digressions. La critique va dans le même sens, en soulignant par exemple, j'ai cité maintenant un extrait de la Revue des Deux Mondes, en signalant que ni Balzac ni George Sand n'ont pu, malgré leur bonne volonté, passer tout à fait, avec armes et bagages, à ce public si nouveau pour eux. Balzac lui-même semble convaincu de l'existence de cette frontière, qu'il franchit pourtant souvent. Lorsqu'il s'exprime à ce sujet dans la préface de Béatrix que je citais tout à l'heure, il ne remettait pas en cause cette dichotomie. Il affirmait simplement être capable d'alterner, de pratiquer selon les circonstances l'une ou l'autre de ses manières. Or, dans les années qui suivent immédiatement cet épisode, on assiste à une double reconfiguration. Tout d'abord, le roman feuilleton, en raison de son succès et de l'uniformisation croissante de ses principes esthétiques, apparaît comme une menace pour la diversité de la littérature. Balzac s'en émeut d'ailleurs dans l'avertissement quasi littéraire qu'il place. Je suis en train de regarder si j'ai la diapo ou pas. Non. Hop. Dans l'avertissement quasi littéraire qu'il place au début du Cousin Ponce. Il dit en effet que, soumis à la pression de ce système, les écrivains, je cite, n'ont plus la liberté de la forme. Mais par ailleurs, autre élément de cette reconfiguration, le public semble se détourner de ses idoles. Donc ça, c'est au moment où on va avoir le troisième temps, c'est-à-dire la publication du Cousin Ponce. Donc à ce moment-là, on va lire des avis chez les critiques qui montrent justement qu'il y a une sorte de baisse de régime du côté du feuilleton. Par exemple, dans La Silhouette, en septembre 1946, donc c'est juste avant que ne paraisse La Cousine Bête, et donc avant encore un peu plus avant l'apparition du Cousin Ponce, les rois s'en vont, Soulier radote, Dumas bavarde, Balzac rabâche, L'Aigle des Mystères de Paris, l'illustre père du Chourineur, Eugène Sue, qui laissa naguère la moitié de sa renommée dans la cassette de Rodin, a dépensé le reste au service de son valet de chambre, M. Martin, l'enfant trouvé. Alors, on voit que Balzac fait partie du lot, hein, mais on assiste globalement une modification quand même du paysage éditorial du côté du feuilleton. Et même si, donc là, il est dans la liste, de fait, Balzac constate que lui qui avait du mal à placer ses romans dans les différents journaux, voit revenir vers lui un certain nombre de directeurs de journaux qui souhaitent publier à nouveau ses textes. Dans une lettre en août 1946, il exulte « C'est une bonne nouvelle, cela veut dire que Sue dégringole ». Donc les faux dieux sont en déroute et Balzac jubile puisque visiblement son heure est venue. Et effectivement, La Cousine Bête et dans une moindre mesure, mais quand même assez nettement, le Cousin Ponce seront des succès. Alors dès lors, une question se pose. Est-ce que cette reconnaissance par le public est juste le fait d'une heureuse coïncidence? C'est ce que suggère Eugène Maron. Alors j'espère que je ne me trompe pas parce que j'ai vu tantôt Maron, tantôt Moron. Je pense que c'est Maron, hein, c'est ça. Donc c'est ce que suggère donc Eugène Maron dans la Revue indépendante en 1847. Il explique « Si auteur et public se sont entendus, c'est que Monsieur de Balzac est le romancier dans le genre de talent avec tous ses défauts, et même à cause d'eux peut-être, est le mieux approprié à la réaction sourde qui s'opère contre l'ancien roman feuilleton. » Donc ce qui était au départ un handicap chez Balzac peut devenir du coup, dans ce renversement conjoncturel, une qualité, un atout qui va lui permettre justement de s'imposer par cette différence. Il insiste surtout sur le fait que le public a selon lui une soif de réalité que Balzac peut évidemment étancher et Joël Glaize suggère même que c'est peut-être l'imprégnation progressive par le roman balzacien qui fait que le public peut avoir cette envie de réalité. Une deuxième hypothèse, si ce n'est pas une heureuse coïncidence, mais c'est complémentaire, c'est la question que j'aimerais me poser aujourd'hui, c'est est-ce que Balzac, qui a l'air bien décidé à ne pas manquer son rendez-vous avec le succès, est-ce que Balzac ne tente pas une synthèse entre les exigences du feuilleton et ses propres ambitions romanesques? Non pas un compromis qui sonnerait comme une compromission, mais plutôt une tentative d'agréger à sa propre esthétique les acquis de l'expérience du feuilleton. Ainsi, dans l'avertissement quasi littéraire du cousin Pons, qu'il publie donc au moment où commence la publication du cousin Pons dans le Constitutionnel en 47, il dit, là, il reconnaît d'une certaine manière que l'abonné n'est pas un lecteur ordinaire. Il est en droit de réclamer pour tout un trimestre 50 francs d'esprit, 100 francs d'intérêt dramatique et 7 francs de style dans le feuilleton. Donc cette phrase est très drôle et j'avais toujours prise un peu comme une blague, quelque chose d'amusant, etc. Mais si on la reprend finalement au premier degré, est-ce qu'on ne peut pas considérer que Balzac y prend acte d'exigences légitimes d'un public, hein, et à ce moment-là, on pourrait penser que sans rien rabattre par ailleurs sur ses propres exigences, il va en tenir compte dans l'écriture de son œuvre. D'où la deuxième idée, celle d'un infléchissement poétique. Je reviens vers Eugène Maron, qui commente toujours donc le succès de Balzac, avec notamment la cousine bête. Et il explique ce que, selon lui, Balzac n'a rien changé, en fait. Car on pense bien, lorsqu'on connaît Monsieur de Balzac, lorsqu'on sait sa fermeté, on pourrait même dire son entêtement, l'entêtement qu'il met à ne pas modifier sa première manière, l'on pense bien que si par hasard il s'est trouvé complètement d'accord avec un public qui depuis plusieurs années ne lui avait pas donné grande preuve d'affection, ce n'est pas lui qui a changé de système et qui a fait des concessions. Hein, donc on a une image de Balzac qui est vraiment absolument entêtée. Alors point positif, ça veut dire que la constance avec laquelle il poursuit depuis longtemps une poétique cohérente, hein, qui a été très tôt mise en place, semble avoir sédimenté, et qu'il est reconnu pour ça, mais c'est aussi faire peu de cas d'un certain nombre de variantes, d'expérimentations qu'il a continué à effectuer tout au long de sa carrière, avec à chaque roman, finalement, des nuances. Alors, dans l'écriture de ce roman tardif qui est Le cousin Pons, on peut constater un certain nombre d'infléchissements qui sont peut-être liés, entre autres, au contexte, puisqu'en 1946, la Comédie humaine a été publiée, donc la légitimité est d'une certaine manière assurée. Et j'aurais envie de suivre, là encore, Joël Glaize, dans l'idée que ce moment était propice pour Balzac pour avoir cette tentation de compléter cette postérité qu'il était en train de construire en s'ouvrant à un plus large public. Et donc je vais essayer de montrer quelques éléments d'évolution de sa poétique qu'il met en pratique. Alors je ne vais pas insister sur des aspects qu'on a déjà pas mal traités, c'est-à-dire sur tout simplement son adaptation aux contraintes propres au roman feuilleton, c'est-à-dire le découpage des chapitres, les titres, le suspense en fin de livraison, tout ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas de cela que je voudrais parler ici. Je voudrais voir plus largement comment Balzac essaie de réajuster ses pratiques fondatrices pour intégrer, au sens de rendre possible, de combiner différents modes de lecture. Hein. Alors là, j'ai noté quelque chose que je ne comprends plus. Pourtant, j'avais l'air d'y tenir, hein, parce que je l'ai souligné. Oui, c'est ça. Ça serait une réponse à Alexandre Dujarrier, hein, qui lui disait qu'il fallait couper les digressions dans la version des feuilletons et puis qu'ils pouvaient les rajouter après dans une version en volume. Et donc l'idée, ce serait qu'on ne va pas avoir deux versions du texte, mais bien une seule version, mais qui prenne en compte justement cette pluralité de lecture. Et donc je voulais vous donner quelques échantillons de la manière dont le feuilleton travaille le texte romanesque dans sa forme comme dans ses représentations. Le premier point sur lequel on pourrait réfléchir à ça, c'est à propos du discours auctorial, qu'on pourrait donc acclimater sans le renier. Donc, discours auctorial, ben, on a vu que les lecteurs de feuilletons reprochent à Balzac ses longueurs, et cette réticence vise en premier lieu les digressions et les développements discursifs, qui inscrivent l'ensemble du récit dans tout un réseau serré d'assertions, d'explications, de commentaires, qui escorte l'action tout en renforçant sa crédibilité. Donc, sur la question du discours auctorial, je peux peut-être aller relativement vite en disant simplement que donc Genette a bien défini cette notion-là et la plupart du temps, donc, il relevait toute une série de passages qui, justement, correspondaient à un certain nombre de thématiques. Hein. Il y avait donc un certain nombre de discours auctoriaux qui étaient dans la liste qu'il proposait et il disait qu'il était capable de condenser des volumes entiers en quelques lignes. Hein. Donc le premier infléchissement qu'on pourrait avoir, c'est celui-ci, c'est que Balzac va essayer, dans Le Cousin Ponce, de produire un discours auctorial qui serait justement la plupart du temps condensé. Donc, un petit exemple, page 217, il est question du docteur Poulain, et il nous dit « Aussi par ce temps où la pièce de 100 sous est tapie dans toutes les consciences, où elle roule dans toutes les phrases, le docteur, âgé de 30 ans, doué d'une mère sans relation, restait-il garçon ?» Donc on a à la fois toute la partie contexte qui est présentée ici, à travers une version très ramassée avec le symbole de la pièce de 100 sous. On a aussi des éléments contextuels liés directement au personnage, avec la question des tranches de vie, l'âge de 30 ans qui... même si ce n'est pas la même chose que la femme de 30 ans, pour les hommes aussi, c'est un seuil symbolique. La question des relations, on a vu toute l'importance des liens, etc. La question du mariage, et tout ça est ramassé en fait en quelques allusions. Et si Balzac peut se permettre ça, c'est aussi parce que là encore, je parlais tout à l'heure de sédimentation de ces pratiques, toutes ces explications, en fait, ou la plupart d'entre elles, en tout cas, il les a données ailleurs déjà. Hein. Sur la question de l'argent, il y a déjà beaucoup de choses dans La Cousine Bête, et il y en a aussi pas mal dans Le Cousin Ponce, et sur les questions d'âge, de moment dans la vie, etc. Mais il y a tout le reste de la comédie humaine pour répondre en fait à ces éléments. Et je veux passer au deuxième point. Deuxième possibilité pour s'adapter donc au feuilleton, l'idée de rendre attractifs les portraits et les descriptions, même de les faire désirer, ces portraits et ces descriptions. L'exemple le plus frappant, c'est celui qui ouvre le roman, puisqu'on a l'entrée en scène de Ponce, qui va nous permettre d'avoir un portrait, une sorte de portrait à machine, à surprise. D'abord, le personnage est loin, donc ça va d'une part, dans un premier temps, attiser notre curiosité. Ensuite, les éléments de description sont égrenés à mesure qu'il se rapproche, et à chaque fois, il renverse la perspective. On va d'abord avoir des fausses pistes. Est-ce que c'est un négociant ? Est-ce que c'est un garçon en bonne fortune. On va ensuite avoir la question du ridicule avec le motif du Spencer. Ensuite, on va avoir le grotesque à travers la laideur de son visage. Puis on va avoir la mélancolie à travers son regard. Puis on revient au costume, mais cette fois-ci, c'est sous l'angle d'une signification qu'il a, c'est-à-dire la pauvreté qu'il manifeste. Puis une devinette sur l'objet qu'il a dans la main. La réponse va être différée de quelques pages. Puis c'est un artiste, puis c'est un collectionneur, etc. Donc tout ça en plus est médiatisé par le regard du flâneur, qui est un vecteur de curiosité, un vecteur aussi de sentiments contradictoires qui sont convoqués par le texte et auxquels nous sommes invités à nous associer. D'où la petite phrase « Vous eussiez été là, vous vous seriez demandé pourquoi le sourire animait cette figure grotesque ». Donc le portrait devient non pas le lieu d'une exposition, d'une présentation, mais le lieu d'une action herméneutique. On fait de l'analyse sémiologique sur le motif. Donc j'avais des variantes sur la curiosité, le portrait de Frézier, avec avant la peinture de son antre, le cerbère à l'entrée, qui est une façon de faire une variation sur l'effet voqué, hein, comme la passion voquée, le lieu, le personnage, etc., mais sous une forme beaucoup plus dynamique et liée justement à cet effet de devinette et d'attention. Même chose avec le portrait de la Cibot. Alors là, le portrait n'est pas... Enfin, il est reporté, il y a de la rétention d'informations, on va le reporter à plus tard. Et on peut même avoir des choses qui ne vont pas être reportées mais annulées. Par exemple, la description du taudis de Madame Fontaine, déjà décrit dans Les Comédiens sans le savoir, et donc on n'a pas besoin de le refaire. Alors ce qui est bien, c'est que ça a une double efficacité. D'une part, c'est le moment où on a aussi cette longue digression sur la voyance, etc. Et donc, en compensation, en quelque sorte, on va enlever, enfin, on ne va pas mettre la description. Et puis d'autre part, on remplace ça par une sorte de page de publicité, hein, puisqu'on va avoir une histoire aussi considérable et aussi chargée de l'État que l'est une histoire complète de la société française au XIXe siècle. Donc ça, c'est le grand projet de la comédie humaine vers lequel on va pointer. Donc il y a un effet vraiment de mise en relation de cette œuvre avec le reste de l'ensemble. Troisième possibilité, d'écrire un monde en mouvement. Hein, on connaît cette phrase de la préface de La fille d'Ève. L'auteur a devant lui pour modèle le XIXe siècle, modèle extrêmement remuant et difficile à faire tenir en place. Donc cette espèce de fable des deux amis prend place en fait dans un présent qui marche, avec deux aspects qui vont nettement se détacher. D'une part, l'idée de décalage temporel, avec des personnages qui sont toujours à contre-temps, et puis la question de l'évolution des valeurs. Donc je vais essayer d'aller assez vite là-dessus. Le motif de la mode qui apparaît au départ, la mode sur les boulevards, qui rappelle la théorie de la démarche ou les choses comme ça, avec son effet de légèreté, est en fait un marqueur qui réfère à un discours de fond sur justement ce décalage temporel, qui est thématisé aussi. Donc on a ce personnage-là qui est un personnage du passé, qui arrive dans le présent, mais on a aussi une problématique qui se pose à l'auteur lui-même, puisqu'il va se demander comment parler au lecteur dans la 47e année du 19e siècle. Donc on a quelque chose de très précis dans l'idée justement de faire ce lien avec de faire ce lien entre le message général et puis ce qu'on va avoir à dire précisément à ces lecteurs-là. Donc sur la question du personnage, je résume vraiment à grands traits. L'idée, ce serait que le récit devienne une manière devienne une sorte de réceptacle et puisse donner une place au personnage en quelque sorte in memoriam. Hein, on voit que le cousin Ponce représente une époque. Hein, on me dira quand je reviendrai que je suis une perruque, un vieux, que mon temps est fini, que je suis empire, rococo. Donc ce regard change et il est empreint d'une certaine nostalgie. Mais justement, le roman va garder son histoire au moment même où les autres personnages essaient au contraire de la réécrire. Hein, la discussion entre Madame de Marville et Gaudissart, à la fin, c'est une sorte de palimpseste qui vient effacer la réalité de l'histoire du personnage. Sur la question des valeurs, on a l'idée là aussi que le personnage de Ponce est finalement lâché par l'ensemble du personnel romanesque. Personne n'y prit la défense du misérable Ponce, du parasite, du sournois, de l'avare, du faux bonhomme enseveli sous le mépris, regardé comme une vipère, réchauffé au sein des familles, comme un homme d'une méchanceté rare, un saltimbanque dangereux qu'on devait oublier. L'idée serait donc que dans ce passage, le roman donc est là pour prendre la défense du personnage, mais surtout qu'on va pouvoir, à travers ce principe-là, aller faire un tour du côté de l'intériorité des personnages pour essayer de voir ce qui peut être sauvegardé, alors même qu'on a une omniprésence, un envahissement de la société par la financiarisation des rapports humains, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Si la pièce de son sou est tapie dans toutes les consciences, je passe une diapo, ça veut dire que le discours narratif lui-même peut être contaminé par ça. On a ce passage de nouveau qui peut l'indiquer. Lorsque Balzac forme une sorte d'articulation au sein de son récit en expliquant « Ici commence le drame, ou si vous voulez la comédie terrible, de la mort d'un célibataire livré par la force des choses à la rapacité des natures cupides qui se groupent à son lit et qui, dans ce cas, eurent pour auxiliaire la passion la plus vive, celle d'un tablomane, l'avidité du sieur fraisier qui, vu dans sa caverne, va vous faire frémir, et la soif d'un Auvergnat capable de tout, même d'un crime, pour se faire un capital. » Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est pas seulement donc ce basculement vers la comédie terrible qui en soi est intéressante, mais c'est aussi que le texte romanesque prend le ton de l'annonce, il parle le langage de l'annonce pour ferrer les lecteurs du feuilleton. Et d'une certaine manière, Balzac l'a rempli le contrat dont il parlait tout à l'heure, voilà les 100 francs d'intérêt dramatique. Quatrième élément, intérioriser le manichéisme. Si on part du principe que le manichéisme est une caractéristique du roman feuilleton, on peut constater que chez Balzac, il y a aussi une utilisation de ce principe-là, mais que la distribution des rôles est moins stable et que les profils sont moins univoques. Par exemple, le personnage de La Cibou me semble intéressant par son retournement radical. On a pu dire que si elle changeait comme ça brutalement de nature, passant du côté tout d'un coup des méchants de manière assez brutale, c'était peut-être parce que Balzac, écrivant vite, a eu cette idée en cours de route et donc peut-être a décidé de le changer, de lui donner un profil qui n'était pas celui prévu au départ. Il me semble peut-être que ça peut fonctionner plutôt comme le déguisement dans le roman feuilleton. Un personnage en cache un autre. Hein. Mais c'est plus insidieux, parce que là, c'est à l'intérieur même de la psychologie du personnage qu'un potentiel va pouvoir éventuellement se développer. Et du coup, l'idée de la probité négative, que, je ne vais pas lire le passage, mais donc c'est dans ce passage-là qu'on en parle, l'idée de la probité négative est intéressante, parce qu'à partir de là, il dit que ça peut fonctionner avec n'importe quel sentiment. L'avantage, c'est que tout personnage peut basculer du côté sombre. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va permettre, dans l'idée toujours de duplicité, hein, l'homo duplex, tout est double, quelque chose qui va être particulièrement efficace et qui peut fonctionner dans les deux sens, puisque de la même manière, Poulain et Fraisier, qui sont au départ identifiés du côté négatif, justement, vont pouvoir être aussi, par moments, représentés comme deux jeunes ambitieux à la manière de Rastignac, qui ont la vie devant eux, un avenir à se créer. Gaudissart, en fait, m'intéresse aussi parce que comme il retourne sa veste régulièrement, à chaque fois, il va créer des rebondissements. Et en même temps, ce n'est pas complètement une hésitation, ce n'est pas que de l'opportunisme, c'est aussi une manière de négocier des valeurs en organisant leur cohabitation compartimentée. Hein. Dans son fort intérieur, il est touché par les personnages, mais d'un point de vue extérieur, par instinct de survie, par désir d'être du côté des plus forts, il va agir en conformément aux lois de la société. Le dernier élément, c'est le fait de faire confiance aux émotions. Puisque le roman feuilleton fonctionne avec des émotions et qu'apparemment ça plaît aux lecteurs et ça marche et ça accroche leur intérêt, pourquoi ne pas faire confiance à ces émotions et les utiliser comme un support privilégié de l'interprétation, avec donc une dimension qui serait plus intuitive, plus sensible, moins pédagogique, moins démonstrative. Donc là, c'est toujours la même citation qui revient, mais je voulais au départ en faire une sorte de fil rouge. J'ai un peu pas pu le faire, mais l'idée, ça va être justement de repérer des moments où il y a des aiguillages. Alors certains sont assez nets, assez précis, comme celui-ci. Tous les gens cupides comprendront, autant que les gens honnêtes l'exécreront, la joie de la présidente. Donc là, on a un moment où clairement deux rôles sont spécifiés, et c'est vraiment au lecteur d'intérioriser le débat éthique, hein, pour se demander de quel côté il va prendre position. Et en fait, cet élément-là, il est présent partout dans le texte, dès lors qu'il y a des discordances, des situations dans lesquelles justement on passe du rire aux larmes, de la critique à la sympathie, etc. etc. Et je reliais ça à l'approche de Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction, puisqu'il explique que la manière dont on va s'immerger dans une fiction pour en tirer un fonctionnement cognitif intéressant, ça va pas dépendre seulement de la fidélité mimétique, mais plutôt, ou en tout cas tout autant, c'est ce qui est en bas la citation, de la charge affective liée à ce qui est représenté, hein, d'où l'importance de ces émotions. Donc je conclue. Donc, conclusion, comment renverser les faux dieux de cette littérature bâtarde ? Alors, pas en prenant leur place, pas précisément en tout cas, pas en prenant non plus leur contre-pied, mais plutôt en essayant de déplacer le centre de gravité de cette pratique littéraire vers un ensemble plus inclusif de tous les lectorats. Il y a dans le roman feuilleton une force de captation, avec le rythme, le brio, la prise directe sur le contemporain. Et c'est quelque chose qui peut être compatible avec l'exigence d'un sens complexe à établir, d'un discours à tenir. Donc Balzac choisit de ne pas choisir entre les deux modèles, il choisit de ne pas non plus accepter une compromission, mais il va essayer de proposer un modèle littéraire qui fonctionne dans les deux contextes, qui soit véritablement amphibie. Pour reprendre donc la notion de bâtardise qui était dans la citation originelle, d'une certaine manière, il essaie de se la réapproprier, cette notion-là, au moment où ces deux aspects, ces deux mondes éditoriaux sont en train de fusionner, ou en tout cas de s'acoquiner un peu plus l'un vers l'autre, avec les journaux qui commencent à proposer des éditions, etc., Balzac, d'une certaine manière, ne fait plus de la bâtardise un stigmate, mais plutôt le signe d'une esthétique mêlée, une façon, une capacité à sortir du droit chemin pour prendre justement le meilleur de chaque modèle. Voilà, merci beaucoup.